الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الليلة ليلة السادس من شهر جماد الآخرة من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نواصل في هذا الموضوع العظيم الذي هو التعصب الذميم. Nous sommes le 10 février 2019 et nous continuons dans ce même sujet qu'est le blâme du fanatisme ou alors le fanatisme blâmable en se basant sur la conférence tenue par le noble cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et le récompense. Et nous avons vu les méfaits, les effets néfastes causés par le fanatisme blâmable, tant bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, les meneurs désavoueront les suiveurs et les suiveurs en feront de même. Et chacun espérera pour l'autre que le châtiment lui soit multiplié. Après avoir vu cela, le Cheikh Hafidhahullah nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a compté ces histoires dans le Coran. Les histoires des prophètes avec leur communauté, ce qui leur est arrivé, la fin néfaste. Tout ceci afin que nous puissions en tirer des leçons. Que nous puissions en tirer des leçons et que nous prenions garde à glisser dans ce terrain dangereux dans lequel ces gens sont tombés, qu'est le fanatisme blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a conté les histoires des messagers et prophètes l'ayant précédé. Il a mis dans ses récits ce par quoi il raffermit le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les récits cité par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ne sont pas des simples histoires que l'on lit sans tirer de conclusion. Bien au contraire, elles sont des leçons pour les gens doués de raison, pour les gens clairvoyants. Et nous voyons dans ces récits combien fut mauvaise leur fin dès lors qu'ils manifestèrent le fanatisme blâmable à cause duquel ils s'opposèrent au message des prophètes qu'ils portaient à eux, alayhimu salatu wassalam. Et après toute cette clarté que nous voyons dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Cheikh nous dit, « هل استفادت الأمة من المثلات التي نزلت بالأمم الظالمة ?» Est-ce que cette communauté, c'est-à-dire aujourd'hui, a su tirer des conclusions, a su tirer profit et des leçons de ce qu'il est advenu des gens nous ayant précédés parmi toutes ces communautés injustes? Et le Cheikh remarque qu'il est malheureux de constater que beaucoup de ceux qui s'affilient à cette communauté ont glissé dans ce précipice profond qui est le fanatisme blâmable, le suivi idiot et aveugle, que ce soit dans le domaine de la croyance ou des actes cultuels, même dans le domaine politique, morale, comme si le Coran ne concernait pas tous ces gens-là, ni de près ni de loin, comme si le Coran ne s'adressait pas à eux, comme si le Coran n'apportait pas de clairvoyance à ces gens-là, alors que le Coran a mis en garde contre ces maux dans lesquels sont tombées ces nations passées, que ce soit dans la croyance, dans le comportement et autres, comme nous l'avons dit tantôt. Le Cheikh dit وَإِذَا تَبَيَّنَ كَيْفَ كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ سَبَبًا فِي إِهْلَاكِهِمْ وَتَدْمِيرِهِمْ فِي الدُّنْيَا وسبب شقائهم الأبدي وعذابهم الشديد السرمدي في الآخرة. On voit que ce qui est arrivé à ces gens-là comme perte, ces gens qui ont été détruits dans ce bas monde et qui seront attristés dans l'au-delà lors de la rencontre d'Allah, ils éprouveront alors un châtiment éternel. Et pourtant, tu vois des membres de cette communauté commettre des interdits par fanatisme, sans se soucier de la gravité de ce qu'ils font, sans éprouver de peur, ni même sans honte. عليك يرحمك الله وكم جاءت النذر ونزلت بهم المصائب والكوارث فلم يأخذوا من الدروس والعبر والعظات ما يدفعهم إلى العودة إلى الله. Et combien de maux ont atteint ces gens-là? Nous parlons de notre époque. Combien ils furent touchés par des maux, par des calamités, et pourtant cela n'a pas été pour eux des leçons qu'ils ont su tirer afin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se cramponner à son livre et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne les a pas poussés non plus à se délier de ces fausses croyances erronées, ces croyances destructrices. Ils ne se sont pas éloignés de ce ta'assub, de ce fanatisme blâmable, ce fanatisme qui les a détruits. Car le fanatisme est un mal. Le fanatisme ne contient aucun bien. Le fanatisme détruit la personne. Elle détruit une communauté. Elle provoque le mal et engendre de lourdes conséquences pour ces gens-là. À cause du fanatisme, les gens se sont égarés. À cause du fanatisme, les communautés étrangères ont été lâchées sur les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les membres de cette communauté suivront les pas de ceux qui les ont précédés parmi les communautés étrangères. Dans plusieurs récits, à titre d'exemple, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. L'heure ne sonnera pas jusqu'à ce que ma communauté adopte les mêmes agissements, la même morale, les mêmes actions, la même manière de se conduire. C'est tout ce qui est voulu par le terme ici arabe. Empan par empan et coudé par coudé. L'empan, c'est ce qui sépare le pouce du bout de l'index. Et la coudée, c'est du coude à la main. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une allusion au suivi de certains des membres de sa communauté envers les communautés étrangères, envers les morales qui ne sont pas puisées de l'islam, ni du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'an, hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh. Qalu ya Rasulallah, al-yahudu wa al-nasara, qala faman. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit aussi: Vous suivrez très certainement les voies de ceux qui vous ont précédés, en pan par en pan et coudé par coudé, de telle sorte que si l'un d'entre eux pénètre le terrier d'un lézard, vous le suivrez. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'exemple et l'image du terrier du lézard. Et ce n'est pas anodin, car il a une particularité par rapport aux autres terriers. C'est le fait qu'il est sinueux. Il n'est pas droit. Il est penché d'ici et là, de chaque côté. Il est sinueux. Il est donc difficile de s'y introduire. Pour montrer à quel point certains membres de sa communauté vont suivre les pas des communautés étrangères les ayant précédés, au point de les suivre même dans les choses les plus difficiles. Les compagnons, radiyallahu anhum, pris par l'étonnement, dirent au messager d'Allah, ils l'ont interpellé et l'ont interrogé s'il s'agit ici des gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et qui d'autre? Dans un autre récit, apporté par le compagnon Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, il nous dit kharajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn, wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr. Nous sortîmes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de l'endroit appelé Hunayn, alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam. Walil mushrikina sidra ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Les polythéistes avaient un arbre, le jujubier, autour duquel ils se recueillaient et sur lequel ils faisaient suspendre leurs armes. Yuqalu laha dhatu anwat. On lui donnait le nom dhatu anwat. Famararna bi sidra. Nous passâmes près d'un jujubier. Faqulna ya Rasulallah, et dîmes, ô messager d'Allah, ij'al lana dhatu anwatin, kama lahum dhatu anwat. Donne-nous, désigne-nous un jujubier pour y accrocher, comme eux le font. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors en colère et dit Allahu Akbar, innaha sunan. Voici les voies, c'est-à-dire les voies de ceux qui vous ont précédé. Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israila li Musa, ij'al lana ilahan, kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhalun, latarkabunna sanana man kana qablakum. Il leur dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous venez de tenir les mêmes paroles que celles du peuple de Banu Israël s'adressant à Moussa alayhi salam, à qui ils dirent, assigne-nous une divinité comme eux aussi ont une divinité. Moussa alayhi salam leur répondit, vous êtes un peuple ignorant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédé. Alayhi salatu wassalam. Et retenez ici que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, n'ont pas commis l'acte. On ne peut donc pas suivre l'ambiguïté émise par certains qui disent les compagnons aussi avaient commis ce genre d'action. Non, c'est faux. Les compagnons n'ont pas commis cette action. Les compagnons ont demandé et ils étaient fraîchement convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Suite à cet enseignement, ils n'ont pas commis l'acte. Ce n'est donc une preuve en rien, mais c'est plutôt une preuve contre ces gens-là. Et ça, on le voit en détail dans le livre « Kashf al-Shubuhat ». Que Allah nous a facilité d'enseigner. « Walhamdulillah ». وعن أنس وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال الجماعة. Ce hadith que vous connaissez tous, le prophète alayhi salatu wassalam dit, les juifs se sont divisés en 71 fractions, les chrétiens en 72. Et cette communauté-ci, c'est-à-dire les musulmans, va se diviser en 73 fractions, qui seront toutes au feu, exception faite d'une seule. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, et quelle est-elle? Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit alors, al-jama'a, le groupe, c'est-à-dire ceux qui sont en conformité avec la vérité. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit le groupe, il ne s'agit pas du nombre, mais il s'agit de ceux qui se cramponnent à la vérité. Pour cette raison, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, al-jama'a, man ma wafaqa al-haq, وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. Le groupe, c'est ce qui est conforme à la vérité. Même si tu es seul à l'être, tu es le groupe. Il ne s'agit donc pas du nombre, car il y a une règle dans la méthodologie des gens de la sunna qui est al-ibra laysat bil-kathra, al-ibratu bil-dalil. Le nombre n'est pas un gage de vérité, mais la vérité est dans la preuve, la vérité dans les textes. Car sinon, on va justement tomber dans ce ta'assub, dans ce fanatisme blâmable. Et c'est ce que l'on voit lorsque les gens disent « Mais si tu dis que cette action est interdite, qu'elle relève de l'innovation, cela revient à dire que tu as jugé tel nombre de personnes, parmi lesquelles tel et tel et tel. » La réponse est « Ce qui est conforme à la sunna est accepté, ce qui ne l'est pas est rejeté, peu importe les gens qui le font et le mettent en pratique. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'esprit de clan, ce que l'on appelle al-asabiyya, et le fanatisme al-ta'assub. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال, من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. Quiconque sort de l'obéissance, c'est-à-dire au gouvernant, au détenteur de l'autorité, car c'est un fondement des gens de la sunna d'obéir aux autorités à condition que les ordres donnés soient conformes à ceux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dès lors qu'il s'agit d'une désobéissance, nulle obéissance à la créature, nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Quiconque sort de cette obéissance et s'isole de la société, famata et meurt dans cet état, mata mitatan jahiliya. Sa mort est la même que la mort de l'état anti-islamique. Wal'iyadu billah. Wa man qatala tahta rayatin 'immiyatin yaghdabu li'asabah aw yad'u ila 'asabah aw yansuru 'asabah faqutila faqitlatuhu. Et quiconque combat derrière un étendard aveugle, lorsqu'il dit immiya, c'est-à-dire qu'il s'agit de la personne qui combat aveuglement, qui suit aveuglement, qui ne sait même pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive. Immiya, ça vient de al-ama. Le fait d'être aveugle. يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ. En se mettant en colère pour un clan. أَوْ يَدْعُوا إِلَى عَصَبَةٍ. Ou en appelant à un clan. أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ. En portant secours à un clan, puis est tué dans cet état, sa mort aussi est une mort anti-islamique. Et c'est ça le passage témoin du sujet que nous traitons. فَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّةِ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. Et quiconque se rebelle contre ma communauté en frappant le pieux comme le pervers, en ne tenant pas compte du croyant et en ne tenant pas les engagements qui ont été pris avec les autres communautés, il ne fait pas partie de moi et je n'ai rien non plus à voir avec lui. On remarque que dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wasalam interdit l'esprit de clan. L'esprit de clan, c'est le fanatisme. C'est ce qui amène aux mauvaises conduites, qui pousse à tout ce qui est mauvais et détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là contredisent les principes islamiques. L'islam a appelé à la fraternité en Allah, subhanahu wa ta'ala, et au rejet complet et total de toute forme de fanatisme, peu importe sa catégorie et sa sorte. Voyez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'un d'entre les muhadirines, les compagnons, il y a parmi eux le muhadirun, ceux qui ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine, et Al-Ansar, les habitants de Médine qui les ont accueillis. Lorsque un des muhajirin a dit « Ya l'al-muhajirin » et l'autre a dit « Wa qala ahadul ansar, ya l'al-ansar » lorsqu'il y a eu une dispute entre les deux, chacun est revenu à son origine. L'un étant muhajiri, l'autre ansari, le premier a appelé les gens de son origine et le second a fait de même, a agi de la même façon. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère et a dit « Ada'wa al-jahiliya wa ana bayna adhurikum da'uha fa innaha muntina » Vous proférez l'appel à la manière anti-islamique alors que je suis devant vous, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et vous tenez ces propos. Délaissez cette chose-là car elle est nauséabonde. C'est une chose qui est mauvaise. Alors que, comme le dit le Cheikh Rabi Hafidhahullah, lafdhul ansar, lafdhun mamdouh, l'appellation ansar est une appellation louable. Wa lafdhul muhajirin, kadhalik, de même pour l'appellation muhajirun. Mais dès lors qu'ils ont utilisé ces appellations dans cette situation où chacun voulait revenir à son origine, suite à une dispute entre les deux, le prophète alayhi salatu wassalam n'a plus regardé l'appellation en elle-même et le fait qu'elle soit louable, mais il a regardé le comportement blâmable qu'il faut cesser de mettre en pratique. Wa athna Allahu 'ala al-muhajirin wal ansar li jamil sun'ihim wa kamal af'alihim wa quwwati imanihim. ولكنها لما صدرت عن عصبية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. Le prophète عليه الصلاة والسلام a décrit cela comme un appel anti-islamique et a dit qu'il est nauséabond. وأما المهاجرون والأنصار فلم يكن لهذه الدعوة أي أثر فيهم لرسوخ إيمانهم. Ses compagnons que sont المهاجرون والأنصار, cet appel n'a pas d'effet en eux, car leur foi est enracinée et forte. Et d'autant plus qu'ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cheikh nous dit, « Wa amma al-muta'akhirun, faqad fa'alat bihim al-asabiyyatu fi'laha illa man sallam Allah. » Quant aux contemporains, à notre époque, cet appel qui n'a pas touché les compagnons, dans leur foi, dans leur cœur, dans leur pratique. Cet appel a fait ce qu'il a fait dans cette époque chez beaucoup de gens. Il a causé beaucoup de tort. Mon village, mon pays, mon origine, ma tribu, mon idéologie, mon clan, mon groupe, ma secte, ça a détruit un grand nombre des membres de cette communauté. Ça les a poussés, pour certains, à tomber dans le shirk, wal'iyadu billah, dans la bid'a, à délaisser des enseignements clairs du Coran et de la Sunna, des paroles on ne peut plus claires. Wala tushriku bihi shay'a, ne lui associez rien. Il n'y a pas plus clair que ça. Et pourtant, certains sont plongés dans le shirk. Pour quelle raison? Lorsqu'il leur est dit, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils répondent, inna wajadna aba'ana ala umma. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces, le fanatisme. L'islam a appelé à la fraternité entre les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innama al-mu'minuna ikhwa » Seuls les croyants sont frères. Wa qala alayhi salatu wa salam « Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da » Le croyant pour l'autre croyant, est à l'image d'un édifice dont chaque partie renforce l'autre. Wa qala alayhi salatu wassalam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu, wa la yuslimu. Yuslimu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, le musulman est le frère du musulman. Il ne l'offense pas il n'est pas injuste envers lui. Voilà Yuslimo. Il ne le... il ne le livre pas. Jusqu'à la fin du récit. Tous ces récits-là, le Cheikh Rabbi Hafidahullah nous dit « Tadfa'ul muslimin ila ta'akhi » pousse les musulmans à concrétiser la fraternité, à l'amour entre eux et à repousser l'injustice. Kama fil hadith « Ansur akhaka zaliman aw mazlouma » apporte secours à ton frère, oppressé soit-il ou oppresseur. قال هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما. Le compagnon dit, ô messager d'Allah, j'apporte secours à un oppressé. Mais comment apporter secours à un oppresseur? Quelqu'un qui est coupable d'une injustice, comment lui apporter secours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه. Tu l'empêches de commettre l'injustice, et en cela, tu lui as apporté secours. Et sachez, chers frères, qu'à l'époque anti-islamique, cette phrase était prononcée par les gens. Ils disaient, apporte secours à ton frère, oppresseur soit-il ou oppressé. Ils entendaient par là, peu importe qu'il soit dans le vrai ou dans le faux, secours-le. S'il est oppressé, viens lui en aide. Et même s'il est oppresseur, viens lui en aide dans l'oppression, dans l'injustice. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a éduqué ses compagnons en changeant la conception de cette phrase. Lorsqu'il leur dit, viens en aide à ton frère, oppressé soit-il ou oppresseur, un compagnon a dit que pour la question de l'oppressé, c'est clair, mais comment apporter secours à l'oppresseur? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis un terme à la mauvaise conception de l'époque anti-islamique en leur disant que apporter le secours à l'oppresseur consiste à l'empêcher de commettre l'oppression. C'est pour ça que le Cheikh Rabbi Hafidahullah va dire, فَالنَّاسُ يَتَصَوَّرُونَ الظُّلْمَ فِي السَّطْوِ عَلَى الْأَمْوَالِ فَقَطْ أَوْ الْأَعْرَابِ وَلَكِنْ الظُّلْمُ قَدْ يَكُونُ لِلْعَقِيدَةِ قد يكون للقرآن قد يكون للسنة قد يكون للمسلمين إنسان يدعو إلى الحق ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى الخير فيظلم فيجب نصره بالحق وسيأتي كلام العلماء في طريقة التناصر وعلى أي أساس تكون هذه المناصرة. Les gens ont pour image que l'injustice se manifeste à travers le fait de s'accaparer des biens d'autrui ou de porter atteinte à l'honneur. Mais il existe aussi de l'injustice dans la croyance. Celui qui adhère à une idéologie malsaine et qui a une croyance erronée, mauvaise, est un injuste. Il est tombé dans l'injustice. Qad yakunu lil-Qur'an. Il y a de l'injustice envers le Coran. Celui qui altère les textes du Coran et qui leur en donne des explications qui ne sont pas celles des compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. Qad yakunu lis-sunnah. Il peut y avoir de l'injustice envers la sunnah. Les gens qui innovent et par exemple affilient ou attribuent leurs actions innovées à la sunnah, c'est de l'injustice envers la sunnah. Et il peut y avoir de l'injustice à l'égard des musulmans. Quelqu'un qui appelle au haqq, quelqu'un qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle au tawhid, qui enseigne aux gens de rattacher leur cœur à Allah tabaraka wa ta'ala, et qui donne de son temps pour faire en sorte que les gens aiment la sunnah, un autre arrive et commet à son égard une injustice. Il est un devoir pour le musulman de lui apporter secours. Il est un devoir pour le musulman de lui apporter secours, et le Cheikh Hafidahullah va détailler la manière d'apporter secours à ce dernier. Mais malheureusement, nous dit le cheikh, ces orientations immenses, constructrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été chez des gens vaincus par le fanatisme. Elles ont été vaincues par le fanatisme et le fait de se cramponner à des idées ou à des personnes. Fermons alors les yeux devant tous ces textes clairs du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tombons alors dans le suivi aveugle, dans les passions détestables. Ces gens-là n'ont pas su tirer profit des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exception faite d'une infime partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Et cette infime partie, c'est ce que l'on appelle « ta'ifatun nadiya ». C'est la fraction sauvée, le groupe sauvé. Oui, il existe bel et bien un groupe sauvé, même si beaucoup disent « Pourquoi dites-vous le groupe sauvé ?» Comme s'il n'y a que vous. C'est faux. Il y a un groupe sauvé et il y a d'autres groupes qui seront dans le feu. Mais toi, ô l'opposant, nous t'invitons à rejoindre le nombre des gens du groupe sauvé et rien ne t'y empêche. Qui t'empêche d'adhérer à Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam? Qui t'empêche de comprendre les textes à la manière des compagnons et des pieux prédécesseurs? Dès lors que tu t'opposes à cela, c'est toi qui t'es exclu du groupe sauvé. Et ce n'est pas ceux qui ont dit qu'il faut suivre le groupe sauvé qui t'ont exclu. Quelle conception erronée! Le prophète alayhi salatu wassalam a loué ces gens-là. Il a fait leurs éloges en disant qu'ils resteront sur la vérité jusqu'à ce que leur arrive. Le cheikh a dit « Waffaqa jami' al-muslimina ila al-audati ilayha » qu'Allah assiste les musulmans afin qu'ils puissent revenir à cette vérité. Nous disons « Amin ». Et malheureusement, l'esprit de clan et les idéologies, que ce soit dans la croyance, dans les actes cultuels, dans le domaine politique et autres domaines. Dans toutes ces choses-là, nous constatons du fanatisme clair. Le cheikh nous dit, comment était la position prise par les imams de l'islam, les modèles, les élites de la communauté? Comment se sont-ils comportés lors de l'apparition de ces esprits de clan, de ce fanatisme injuste? La réponse, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se sont désavoués de ces agissements. À l'instar de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque des gens venus à lui depuis l'Irak, Basra al-Basra, ont entendu Ma'bad al-Juhani, cet homme qui a nié l'existence du qadar, de la prédestination d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et a affirmé que selon lui, tout ce qui se produit n'est pas l'effet du décret d'Allah Azza wa Jal. Ils ont entendu cette parole pour la première fois, et ils se sont immédiatement dirigés vers les sahaba. Ils ont pu rencontrer Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma pour l'informer de ses propos tenus par Ma'bad al-Juhani. Qu'a-t-il dit radiyallahu anhu? فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. Il dit, si tu rencontres ces gens-là, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Je jure par celui par lequel Abdullah ibn Umar jure, Allah subhanahu wa ta'ala, que si l'un d'entre eux possédait en or l'équivalent de la montagne de Uhud qu'il donnerait en aumône, cela ne serait jamais accepté de lui jusqu'à ce qu'il ait foi totale et complète au qadr, au destin. Donc les salafs, radiyallahu anhum, dès l'apparition de ces choses nouvelles, ils se sont cramponnés au Coran. Ils ont été stricts et fermes. Et ils ont rejeté toute nouveauté. Ils n'ont pas accepté d'esprit de clan ni de fanatisme. Dès lors que ces actions n'étaient pas conformes au texte, aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé ses compagnons à combattre et à éradiquer les khawarij, ces innovateurs. qui s'isole de la société musulmane et qui taxe de mécréants ceux qui commettent des péchés majeurs et qui ont beaucoup d'autres ambiguïtés dans le domaine du dogme islamique. Le prophète, alayhi salat wa salam, les a nommés « sharrun nas », les pires des gens. Et il a dit d'eux qu'ils sont « abradun nas » et « ilallah », les gens les plus détestés d'Allah. « sharru man tahta adim sama », les pires des gens sous la voûte céleste. « Waqal uqtuluhum haythuma wajadtumuhum », il a même dit à ses compagnons « tuez-les où que vous les trouviez ». Malgré leurs efforts apparents dans les adorations. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ces gens-là aux compagnons radiallahu anhum, vous mépriserez vos prières devant la leur, votre lecture du Coran devant la leur, votre jeûne devant le leur. Et quand Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a été invité les Khawarij au retour à la Sunna, il raconte que lorsqu'il entrait à Haroura, l'endroit où ils se sont recueillis et regroupés, à l'arrivée, à l'entrée de l'endroit, il entendait des bourdonnements. Des bourdonnements. Et lorsqu'il s'est approché d'eux, il les voyait tous avec un Coran à la main, en train de lire le Coran. Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, لا تجاوزوا تراقيهم, leur récitation ne dépasse pas leur clavicule. Certains ont dit que les actions sont élevées au ciel pour être présentées à Allah et donc acceptées ou non. Quant à la leur, elle ne monte même pas, elle arrive à la clavicule et elle n'est même pas acceptée d'Allah. Elle n'est même pas montée pour être présentée chez Allah. D'autres ont dit, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas tirer profit de ce qu'ils lisent. Ils ne savent pas comprendre et appliquer ces textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré tout cela, ils n'ont pas été acceptés par Allah dans leur croyance qu'ils ont eue. Le prophète alayhi salat wa salam a dit d'eux, فَأَيْنَمَا لَقِيْتُهُمْ لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Où que vous les trouviez, tuez-les. Car il y a une récompense le jour du jugement dernier pour ceux qui les tuent. Que ce soit bien clair, nous sommes en train de lire des faits indéniables du prophète alayhi salat wa salam, historiques. Et nous ne sommes pas du tout en train d'appeler qui que ce soit à tuer qui que ce soit. J'espère être bien clair, mais nous sommes en train de traiter un sujet. لأنهم كانوا مع عبادتهم يتمتعون بهوى جامع وتعصب مقيت. Malgré toutes les adorations qu'ils avaient, ils avaient en eux un fanatisme répréhensible. Ils avaient en eux le suivi des passions. C'est ce suivi des passions qui les a conduits à dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a rejeté beaucoup des textes. Ces textes qui en réalité étaient le remède pour leur maladie. Car dès lors que la personne innove et suit une mauvaise voie, elle a une maladie dans le cœur. Le remède est derrière les textes du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces textes qui sont un remède pour leur maladie, pour leur esprit de clan et pour toutes ces choses-là. Mais leur fanatisme passionnel et blâmable les a poussés à rejeter la vérité, à ne pas respecter les partisans de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour cette raison mis en garde contre eux en mettant l'accent sur leur dangerosité. Alayhi salatu wa sallam dans un très grand nombre de récits. Après cela, d'autres innovations sont arrivées. Il y a l'innovation de ce que l'on appelle Ahlul Kalam, comme on en a parlé dans le livre Al-Aqidatul Wasitiyya, ceux qui font prévaloir le raisonnement au texte, ceux qui raisonnent d'abord pour adhérer ensuite à ce que ils vont tirer comme conclusion de leur raisonnement, Suite à cela, ils vont rechercher dans les textes ce qui est en accord. Et quand ils trouvent ce qui est en désaccord avec leur raisonnement, que font-ils? Ils altèrent les textes. Wal'iyadu billah. Ils changent le sens, ils changent une lettre, ils changent la construction du mot, ou alors ils changent même la voyelle mise sur le mot, la terminaison, afin qu'il ait un autre sens en accord avec leur passion. Les gens de Ahlul Kalam, ces gens-là aussi étaient fanatiques de leurs idéologies. Ceux qui ont suivi la philosophie grecque, à cause de laquelle ils ont interprété les textes du Coran et de la Sunna d'une manière erronée. Autrefois, les gens jouissaient de la vraie compréhension du Coran et de la Sunna. Dès lors que les livres de philosophie grecque ont été traduits en langue arabe, les gens ont eu cette curiosité de regarder. Ils sont tombés dans les ambiguïtés. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font à notre époque. Lorsqu'ils, par curiosité, vont voir ce qui se dit ici et là. Quel est le résultat de ces gens-là? Ils se rendent malades, puis ensuite ils cherchent un médecin pour les soigner. Ils viennent au savant et lui disent, j'ai lu telle et telle chose, j'ai maintenant un doute, que faire? Mais qui t'a dit de lire telle et telle chose? Où est-ce que tu as appris que dans ta religion, mon frère, il y a cette curiosité qui va te pousser à regarder ce que tel dit, ce que tel autre dit? Cela amène à l'ignorance, à l'égarement et à une ambiguïté qui touche le cœur. C'est pour cette raison que les salafs, certains d'entre eux, des imams de la sunna, lorsqu'ils voyaient des innovateurs, ils bouchaient leurs oreilles. Alors qu'ils étaient des gens de science qui pouvaient répondre aux ambiguïtés. L'ambiguïté, on ne l'écoute pas, mes frères. On écoute le haqq. On écoute le Coran, on écoute la Sunna. C'est une parenthèse qui a toute son importance ici. Et c'est ce qui a conduit ces gens-là à prendre de la philosophie grecque et à amener les façons de penser, de déduire de la philosophie grecque dans le domaine de l'aqida, des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils en sont arrivés à nier qu'Allah a un visage, à nier qu'Allah est au-dessus du ciel, à nier qu'Allah azza wa jal a deux mains. À nier que, pourquoi? Parce que le raisonnement issu de la philosophie grecque n'adhère pas à cela. En laissant les textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les imams de la sunna ont mis en garde contre eux, Ahlul Kalam. Ils ont mis en garde contre eux et ils ont été sévères dans leur mise en garde à cause des effets nocifs de leurs croyances chez les musulmans, de leurs idéologies. Ce sont ces idéologies qui ont tiré la communauté islamique et qui l'ont fait, comme dit le cheikh Hafizahullah, tomber dans un tourbillon. C'est dur à s'en sortir lorsque l'on est dans un tourbillon. Ce qu'on pourrait appeler le cercle vicieux. Ils sont tombés dans un tourbillon de polémiques, de controverses, qui les a même amenés à s'entretuer pour certains, à faire couler le sang. À cause de tout cela, les imams de la sunna ont mis en garde contre ces gens-là. Ces gens-là qui font prévaloir la raison au texte. Ces imams parmi lesquels Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, Sufyan, Ibn Uyayna, Al-Awza'i, Al-Thawri, Ibn Mubarak, Al-Bukhari, Muslim, les imams des salafs. Ils étaient unanimes quant à la mise en garde contre le fait de suivre la raison avant les textes. Ils ont même eu des ouvrages mettant en garde contre ces gens-là, contre leurs ambiguïtés et avec des réfutations. L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit « Hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil-jaridi wal-ni'al » ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على علم الكلام. الشافعي a dit, mon jugement sur les gens appelés Ahlul Kalam est qu'ils doivent être frappés avec Al-Jarid, Vous savez, le palmier, la branche du palmier, il y a les feuilles. Lorsque vous enlevez toutes les feuilles, il reste la très fine branche qui ressemble à une tige. C'est ce avec quoi on va faire notamment des tapis, par exemple. C'est ce que l'on appelle en arabe el-jarid. Je pense qu'en français, c'est le potier, mais j'ai un doute. J'ai regardé, mais j'ai oublié. Mon jugement sur eux est qu'ils doivent être frappés avec cela et avec les sandales. On doit les prendre et les faire tourner dans les tribus devant tous les gens et dire, regardez ce qu'il advient de ceux qui délaissent le livre d'Allah et la sunna du messager pour aller s'adonner à la science de la parole. Ilmul kalam. Elle a été appelée ilmul kalam parce que ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des paroles vides de toute preuve. C'est pour ça qu'on l'appelle ilmul kalam. L'imam Ahmed, rahimahullah, les imams de l'islam, ils ont des registres entiers où leurs paroles ont été consignées. Des registres, comme le dit le Cheikh Rabi, qui ont embelli les bibliothèques islamiques. Il dit, revenez-y, lisez les paroles des pieux prédécesseurs, lisez les paroles des quatre imams concernant les gens de l'égarement. Et vous verrez alors la réalité de leurs paroles et de ce qu'ils disaient. ومع الأسف الشديد مع كل هذا تكاد الأمة تجمع على بطلان هذا المنهج وفساد علم الكلام وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان أصبح أصل الإسلام هذه الفلسفة اليونانية الضالة. Il dit mal et très malheureusement, la philosophie grecque qui a été traduite en arabe et malgré toutes les paroles des savants est devenu, pour certains, dans leur conception erronée de l'islam, la base de l'islam. C'est-à-dire que quand ils vont parler d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand ils vont parler de la croyance, quand ils vont parler du domaine, du dogme islamique, ils ne vont pas se baser sur des textes. Ils vont se baser sur des manières de penser instaurées par ces philosophies grecques. Et ça va devenir, et ça l'est chez beaucoup de gens aujourd'hui, la base de l'islam, au point de lui donner le nom science du tawhid, ilm al-tawhid, ou alors ilm al-aqida, ou alors asl al-islam, la base de l'islam, et ainsi de suite, malheureusement. Et qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à suivre ces mauvaises croyances, si ce n'est at-ta'assub, si ce n'est le fanatisme aveugle qui a assommé la raison des gens et les a atteints dans le raisonnement sain, le raisonnement de base. Suivre ce qu'Allah a dit, suivre ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, malgré le très grand nombre de textes du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ont suivi ce fanatisme, et comme nous l'avons dit, ont fait de la science de Al-Kalam, la parole, la base de l'islam, et ça on le retrouve dans des universités aujourd'hui, qui sont pour les gens présentées comme des écoles vers lesquelles on voyage, qui sont renommées. Lorsque tu portes le diplôme de cette université, tu es dans beaucoup de pays respecté. Et pourtant, qu'est-ce qu'on y enseigne? On y enseigne l'altération du Coran et de la Sunna. On y enseigne la mauvaise croyance. On y enseigne le fanatisme pour une idéologie, un groupe, une secte ou des personnes. Est-ce que c'est cela qu'Allah nous a prescrit? Est-ce que c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Non, et bien sûr que non. Qu'Allah azza wa jal nous guide tous. Après, les innovations des khawarij, il y a eu aussi Ar-Rawafid, les chiites, qui ont complètement détruit la croyance de l'islam et qui ont fait du shirk l'islam et de l'islam du shirk. Ils ont fait de la sunna bid'a et de la bid'a sunna. Wal'iyadu billah. Le shirk, hafidhahullah ta'ala, nous dit après tout cela, il y a aussi ce qui a touché beaucoup des peuples musulmans, gouvernants et gouvernés, comme la maladie du tasawuf, du soufisme. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit à cette époque. Le soufisme que l'on a retrouvé chez beaucoup de gens. Même parmi certains versés dans la science du hadith, nous dit le cheikh, hafidhahullah ta'ala. Ce soufisme qui a conduit les gens à de mauvaises croyances dans le sujet des noms d'Allah. Le sujet de Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Les gens du soufisme qui ont dit, comme nous l'avons vu dans le livre Kitab al-Ubudiyya, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui justement a réfuté la croyance du soufisme dans son livre. Il a dit que parmi les croyances retrouvées dans le soufisme, le fait de n'arriver à penser qu'à Allah, à tout chasser de son cœur et de son esprit de manière absolue et totale, au point de n'avoir qu'Allah, Azza wa Jal, allant même jusqu'à oublier sa propre personne, et alors à croire que sa propre personne c'est Allah. Wal'iyadhu billah. Et alors à croire qu'Allah fusionne avec ses créatures. Ou alors à adopter la croyance du panthéisme. Wahdatul wujud. Wal'iyadhu billah. Le fait de croire que tout ce qui existe est une seule et même entité, c'est Allah. Et la meilleure traduction de ça, c'est le panthéisme, comme quelqu'un m'en a fait part. Allah Azza wa Jalla récompense cette personne. Et tout cela que l'on retrouve dans le soufisme, les savants de l'islam y ont répondu, tels que l'imam ibn Taymiyyah, l'imam ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et d'autres encore. Qu'est-ce qui a poussé tous ces gens-là à s'attacher à ces croyances? C'est le fanatisme aveugle. Aujourd'hui, lorsque tu t'adresses à quelqu'un du soufisme, si tu lui dis « Qala Allah, Qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam », si tu lui dis « Cette parole est erronée », il ne peut pas accepter. Il te dit « Tu as insulté mes ancêtres » ou alors tu as tourné en dérision notre maître spirituel, Ahmad al-Tijani, je t'ai moqué de lui. Ahmad Ubamba, je t'ai moqué de lui. Abdul Qadir al-Jilani, tu ne lui as pas porté considération. Tel et tel et tel et tel, nous te disons en réponse, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne l'adorons pas. Est-ce que pour toi, on ne lui porte pas la considération? Le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam interdit à ses compagnons, lorsqu'il arrive à eux, de se lever pour lui. Et toi, tu vas à la tombe de Tidjani et de Bamba. Tu vas à la tombe de El-Jilani. Tu vas à la tombe de un tel et de un tel et de un tel. Qu'est-ce que dirait le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il te voyait? C'est le fanatisme. Tu dois fouiller dans ton cœur. Qu'est-ce qui te pousse des fois à adhérer à une tendance, une croyance, une idéologie? C'est le fanatisme. Ce n'est pas le suivi du Coran, mais le suivi de la Sunna. Souvenez-vous que le Cheikh Rabi Hafidhahullah a dit du peuple de Nuh qu'ils n'ont jamais reçu quelque chose de semblable comme message que ce que leur a apporté Nuh alayhi salam. Et pourtant, ils s'y sont opposés et l'ont rejeté. Mais si leurs ancêtres étaient ceux qui avaient porté ce message, ils l'auraient accepté. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils répondaient: nous n'avons pas vu nos ancêtres porter ce message. Donc pour eux, si leurs ancêtres portaient ce message, ils l'auraient accepté. C'est ça le fanatisme. C'est ça qui a détruit les gens. Quand est-ce que les musulmans vont se réveiller et vont se rendre compte qu'ils ont été détruits de l'intérieur et de l'extérieur, à petite échelle et à grande échelle, dans leur maison et dans la société? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que si aujourd'hui ils en sont là où ils sont, où ils en sont, c'est parce qu'ils se sont fanatisés pour tout ce qui contredit le Coran et ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya nas, ô les gens, indakum kitab, akramakum Allah bi, wa huwa al-Qur'an. Vous avez un livre par lequel Allah tabaraka wa ta'ala vous a honoré. Ce livre, c'est le Coran. Ce livre-là, il a élevé des esclaves qui n'étaient pas connus. Lorsque Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an a vu que on a désigné un commandant, un gouverneur, qui était un ancien esclave libéré. Il s'est étonné et a demandé pourquoi est-ce qu'il a été désigné. On a répondu parce qu'il est savant. Il est versé dans telle et telle science. Omar radiallahu anhu a dit, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah a dit vrai. Inna Allah yarfa'u bihadha al-Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah élève par ce Qur'an des gens et en rabaisse d'autres. Tu délaisses le Qur'an. Et tu me dis que Salat al-Fatih est 6000 fois meilleur que le Qur'an. Ala tattaqi Allah subhanahu wa ta'ala ya muslim. Ne crains-tu pas Allah ou musulman? Vous avez une sunna. Vous avez le modèle d'un homme qui est le meilleur des hommes. Il est venu sans argent et sans armes et il a conquis des milliards de cœurs. Qui peut faire ça? Adibouni, répondez-moi, qui peut faire ça? Tu es de quelle origine, akhi? Et pourtant, vous êtes tous ici parce que vous aimez le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est ça qui libère la communauté. C'est ça qui apporte à la communauté la réussite. C'est ça qui va t'élever dans ta vie. Le fanatisme va te détruire, toi et ceux qui te suivront dans ce chemin égaré. Peu importe le domaine dans lequel tu vas manifester ce fanatisme. Attention. Et le Cheikh Hafidahullah va nous éveiller sur des formes qui peuvent être imperceptibles pour certains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est ça qui a détruit beaucoup de gens. Malgré la clarté des textes du Coran et de la Sunna, Allah Azza wa Jalla a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, que ne les touche, que ne les atteigne un trouble ou qu'ils ne soient touchés d'un châtiment douloureux. Les versets clairs. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas dit ceux qui contreviennent à l'ordre d'un tel et un tel, en dehors du messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Rabi Hafidahullah nous dit Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a remarqué un début d'apparition de ta'assoub pour des personnes, de fanatisme pour des personnes en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, lors de l'accomplissement du pèlerinage. Le pèlerinage en islam a trois façons d'être accompli. L'une est appelée tamattu', l'autre ifrad et l'autre al-qiran. Sans rentrer dans les détails, le prophète alayhi salatu wassalam a appelé les gens à l'accomplir d'une manière bien déterminée, bien que lui, pour une raison connue, l'a accompli d'une autre. Abu Bakr et Omar radiallahu ta'ala anhuma avaient dans la question leur avis. Certains ont divergé entre eux. On doit l'accomplir de telle façon. Les autres ont répondu non, plutôt de telle autre façon. Les uns ont dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres ont répondu, Abu Bakr et Omar ont dit. Qu'est-ce s'est-il passé? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, s'est mis en colère et a dit, يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. Peu s'en faut pour qu'une pluie de pierre ne tombe sur vous du ciel. Pourquoi? أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Je dis, le messager d'Allah a dit, et vous me répondez, Abu Bakr et Omar ont dit. Allahu Akbar. Qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas entend? Va dire, s'il entend aujourd'hui des gens dire tel a dit, tel a dit, tel a dit face à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il en est ainsi pour Abu Bakr et Omar, qui sont les deux meilleurs hommes de la terre après les prophètes. Il en est ainsi pour eux. Et les salafs radiallahu anhum ont éradiqué toute forme de ta'assoub dès l'apparition. Ils l'ont combattu. Je vous dis, le messager a dit, vous me répondez Abu Bakr et Omar ont dit. Ils ont porté une considération telle que Abdullah ibn Abbas a dit, peu s'en faut pour qu'Allah Azza wa Jal ne vous abatte avec une pluie de pierres. C'est-à-dire qu'il ne prend pas ça à la légère. Radiallahu ta'ala anhuma. L'imam Ahmad rahimahullah a dit du verset que nous avons lu, sais-tu de quoi il s'agit lorsqu'il dit la fitna? La fitna va toucher ceux qui contreviennent aux ordres du prophète. Alayhi salatu wassalam. Il dit al-fitna tu shirk. La fitna c'est le shirk. Celui qui contrevient aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Qui ne suit pas sa sunna, il n'est donc plus à l'abri du shirk. Car c'est la sunna qui nous enseigne le détail du tawhid, les détails du shirk. Mais si tu ne suis pas cette sunna, tu n'es plus à l'abri du shirk. Cette grande fitna. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. Imam Ahmed رحمه الله dit, il se peut que si la personne délaisse certaines de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur soit alors touché d'une déviance à cause de laquelle il périra. وقال رحمه الله أيضا إني لأعجب لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وكلام الأئمة فيه كثير. Il dit aussi, je m'étonne fortement de voir des gens prendre connaissance de l'authenticité de la narration d'un récit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis aller prendre la parole de Sufyan. Sufyan al-Thawri, un imam de l'islam. Ahmed rahimahullah dit, je m'étonne. Vous connaissez un hadith, vous connaissez sa chaîne de narration, c'est-à-dire vous savez qu'il est authentique, et vous allez prendre la parole de Sufyan, même si c'est un grand imam de l'islam. Je m'étonne de ces gens-là. Et la parole des savants, les savants ont beaucoup de paroles dans ce domaine-là. Les imams ont mis en garde, les quatre imams ont mis en garde, ils n'ont jamais appelé à ce que l'on soit fanatisé pour eux, à ce qu'ils soient suivis dans toutes les paroles. Non, et bien sûr que non, ils n'ont rien à voir avec tout cela. Et ce fanatisme blâmable produit des effets les plus néfastes et les plus dévastateurs. Tout cela, encore une fois, à cause de ces égarements. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité certains des effets néfastes du ta'assub. Premièrement, mukhalafatu an-nusus ath-thabita min al-kitab was-sunnati ta'assuban lil-madhahib wa taqdim ar-ra'y al-mahdh ahyanan 'alayha. Le fait de contredire des textes clairs du Coran et de la Sunna à cause du fanatisme pour les écoles. Le fait de mettre à l'avant l'idée de la personne sans aucun texte. Ça, c'est un résultat du ta'assub. La personne, elle ne regarde plus « قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم » Elle regarde, est-ce que c'est mon idéologie, mon groupe, ma personne, ma secte, ma tribu, mon village, mon... Si c'est ça, j'y crois. Si ce n'est pas le cas, je n'y adhère pas. Voilà, et des gens comme ça, tu peux leur dire. Tu peux t'asseoir avec eux, leur réciter tout le Coran. Si Allah ne veut pas guider leur cœur à cause de leur fanatisme, le Coran ne va pas leur faire d'effet, wal'ayadu billah. Pas parce que le Coran ne fait pas d'effet, mais parce que le cœur est scellé par le fanatisme. Sinon, le Coran, lui, est innocent. Le Coran fait de l'effet aux cœurs qui sont disposés à recevoir cet effet. Deuxièmement, kathratul ahadith al-da'ifa wal-mawdu'a. والاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها وحملهم التعصب وبعضهم يكذب ويفتري نصرة لمذهبه وكتب مصطلح الحديث فيها أمثلة من هذه النموذج لهؤلاء المتعصبين. Le fait d'inventer, de forger de toutes pièces des récits pour les attribuer au prophète عليه الصلاة والسلام afin de secourir ton idée ou ton opinion. Et ça, le Cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a justement donné sa vie pour combattre ces gens-là. Dans la plupart de ses écrits, il a combattu ces gens qui ont écrit des livres où ils ont inventé des récits qu'ils ont attribués au prophète alayhi salatu wassalam pour en faire découler des règles et justifier leurs actes innovés. Wal'iyadu billah. Il a mis tout son temps dans ça. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse habiter le plus haut degré du paradis. Rahimahullah. Troisièmement, taqdimu aqwali al-ulama al-muta'akhirin ala aqwali al-a'imma al-mutaqaddimin. Le fait de faire passer les paroles des savants contemporains avant les paroles des savants anciens. Et ça, c'est ce que l'on voit dans le fanatisme. Lorsque tu dis, parmi les savants anciens, si on remonte aux savants des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, tu donnes des noms des savants des salafs de la communauté. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum. D'autres parmi les compagnons, parmi les tabi'un, parmi atba' al-tabi'in. Et lui, il te dit, tel shir de telle époque a dit, telle personne contemporaine a dit. Wal'iyadu billah. Quatrièmement, الانحباس في مذهب واحد وعدم الاستفادة من علم المذاهب الأخرى وجهود رجالها وكتبها تعصبا لمذهب معين. Le fait de se restreindre à une seule école, comme ceux qui sont fanatisés pour une école, que ce soit celle de l'imam Malik ou Ahmed, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, il dit je suis Hanafi, je ne veux rien savoir d'autre. Je suis Maliki, je ne veux rien savoir d'autre. Je suis Hanbali, je ne veux rien savoir d'autre. Shafi'i, je ne veux rien savoir d'autre. Et alors, à cause de cet agissement, il ferme la porte à un océan de science. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre chez Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa, tout ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, et rejeter tout ce qui ne l'est pas. Ce sont eux qui nous ont dit d'agir ainsi. رحمهم الله تعالى. خامسا خلو كثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعية ورغبة كثير عن دراسة الكتاب والسنة إلى هذه الكتب. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit même à notre époque. Le fait de voir que dans les livres de jurisprudence islamique affiliés à des écoles dont les auteurs sont des gens du fanatisme, on y retrouve simplement les paroles des hommes, sans les textes du livre d'Allah Azza wa Jal ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela peut pousser certaines personnes à ne plus avoir envie d'étudier le Coran et la sunna, pour simplement se concentrer sur les paroles des hommes. Et cela a été détaillé par le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans l'introduction de son livre Sifatul Salah, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du takbir au taslim, comme si tu la voyais. Sadisan, sixièmement, shuyu'u taqlidi wal jumud wa iqfalu babi al-ijtihad. On reprendra sur celle-ci à la prochaine assise, inshallah tabaraka wa ta'ala, et ce sera la clôture. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.